Slime, saison 2, émission 4, rideau.
C'est pas la joie dans le monde en ce moment. Aux États-Unis, le gouvernement d'extrême droite de Donald Trump déporte des étrangers avec la police de l'immigration. Et chez nous, en France, on craint que des choses similaires n'arrivent. Parce que la montée de l'extrême droite, c'est un danger pour la société. Rappelons-le que l'extrême droite tue, que ce qu'elle veut, c'est la mort. La mort de tous les gens qui ne sont pas dans la norme. Les étrangers, les personnes LGBTQ+, les handicapés ou même les opposants. L'extrême droite déteste l'art, la culture de manière générale, car l'art c'est une manière de s'exprimer librement, de contester les pouvoirs en place, de questionner le statu quo. Dans ce tumulte, les moyens de lutter, de militer contre ces événements, contre ces politiques sont nombreux, et aujourd'hui nous allons vous parler de comment la comédie musicale s'est engagée, que ce soit aujourd'hui ou à travers son histoire.
Slime, l'émission qui vous parle de comédie musicale, un vendredi par mois à 19h, sur Radio Campus Paris.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans Slime, l'émission qui vous parle de comédie musicale et qui parle aussi un peu de politique des fois. Je suis Gauthier et je suis moi pas très bien installé sur un strapontin pliable, j'ai un petit peu mal au dos. Et à ma droite, qui a l'air super à l'aise, Ange. Salut Ange.
Salut Gauthier.
Comment ça va?
Bah ça va et toi?
Bah ça va très bien. Et derrière moi il y a Élise. Salut Élise.
Salut Gauthier.
Comment ça va toi?
Bah écoute, ça va super.
Et bah super, une réponse un peu différente mais quand même similaire. Et toi Ilona, alors attends, à ma gauche. Ouais, t'as l'air pas très bien installé non plus toi parce que t'es par terre. À gauche, je m'en serais content.
Oui, c'est ok.
Ça va?
Là, c'est pas facile, mais on survit.
On survit, mais c'est le motto de cette émission, visiblement.
On survit.
Merci à tous vous trois d'être là. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Slime, l'émission qui vous parle de comédie musicale, mais peut-être un peu moins aujourd'hui. C'est parti. Et qui va nous faire un topo sur le sujet du jour? Ça va être Ange. Ange, je te laisse la parole.
Merci beaucoup, mon cher Gauthier. Moi, je vais vous parler d'art, pour commencer. L'art est politique par essence, parce que, en mon sens, ce qui différencie une œuvre d'une image générée par ChatGPT, c'est que l'œuvre porte un message. Un message, c'est vaste, hein, ça peut aller de « j'aime bien les pâtes au pesto » à « debout les damnés de la terre ». C'est une question assez philosophique et on pourrait en réalité débattre des heures durant dessus. Mais pour des raisons de timing, et aussi parce que je fais bien ce que je veux, permettez-moi d'utiliser cette définition tout au long de mes interventions au sein de cette émission, quand je parlerai d'art ou encore d'œuvre. Je ne pense pas me tromper en vous disant que vous connaissez tous la fable « La cigale et la fourmi » de Jean de La Fontaine. Je me trompe ?
Tu ne te trompes pas.
Merci. Voyez-vous, je trouve que c'est une introduction pertinente à mon propos. Une petite cigale qui n'a plus une thune, parce qu'elle a chanté tout l'été, se retrouve moquée par sa voisine, une fourmi bien plus futée, qui, elle, avait de son côté un vrai plan de carrière et a travaillé toute sa vie pour acheter son joli petit pavillon de banlieue et sa Renault Scénic hybride, parce qu'après tout, elle l'a bien mérité, non? Vous allez me dire « Oh, je sais pas tout à fait ça le texte » et je vais vous répondre « Si, c'est exactement ça le texte !» La Fontaine est un artiste du XVIIe siècle qui écrit des fables, donc entre autres, hein, c'est-à-dire de petites poésies toutes mignonnes, avec des animaux tout mignons, qui figurent en réalité les personnalités de la cour de France. Et ça, on nous l'a assez répété en sixième. La censure était si omniprésente qu'il n'y avait pas d'autre moyen pour faire passer des messages qu'au travers de métaphores. Donc je reprends ma petite cigale. Vous croyez vraiment qu'un artiste qui fait partie d'un cercle d'artistes irait dire « Oh là là, j'ai été tellement bête de choisir cette voie, je devrais plutôt trouver un métier stable !» Allons bon ! Celle qui est critiquée ici, c'est la fourmi, aliénée par le rendement et la productivité, préférant se moquer de sa comparse dans le besoin plutôt que de lui tendre la main. On est sur un texte éminemment social, dénonçant l'individualité et le manque de compassion. Et cette fable-là, mes amis, est tous les ans apprise par des dizaines de milliers d'enfants de 10 ans, récitée mélodiquement et méthodiquement, sans que quiconque ne comprenne que le message porté est « C'est pas sympa d'être de droite, pardon, c'est pas sympa d'être égoïste !» Cette simple fable, que vous connaissez tous et toutes, est la porte d'entrée vers le fait qu'on le veuille ou non, l'art est et sera toujours politique.
Merci Ange pour ce propos liminaire, finalement. Et donc, je crois que tu voulais parler de qu'est-ce que c'est une œuvre d'art au global
ouais,
aussi.
Ouais, c'était la question que j'allais vous poser, dont on pourrait débattre en réalité pendant des heures. Mais moi, ça m'intéresserait de savoir ce que vous... Quelle est la différence pour vous entre, je sais pas, un petit rendement esthétique et une vraie œuvre d'art? C'est quoi ce qui fait qu'on qualifie quelque chose d'art?
Moi, je me demande s'il y a vraiment une différence entre un truc un petit peu esthétique, un petit peu mignon, si ça a été créé. Je me dis que c'est peut-être de l'art au final, que ce soit genre un tableau de fou furieux ou alors quelqu'un qui décore des coques de téléphone avec de la pâte Fimo. Au final, j'ai envie de croire que tout est un peu de l'art à son niveau, à son échelle.
Je suis d'accord avec toi. Voilà.
Il y a aussi le truc de l'art, entre guillemets, versus l'artisanat. Est-ce que l'artisanat est considéré comme de l'art? Est-ce que des choses qui sont pratiques, est-ce que ça peut être considéré comme de l'art? Une table, par exemple?
Ouais, c'est une question qui se pose et c'est une question qu'on peut aborder. On digresse un peu, hein, mais on est dans le domaine de l'art, donc parlons un petit peu d'art, sans doute. Par exemple, la notion de design que, Élise, tu connais très bien. À l'origine, par exemple, une table, ça peut être une œuvre d'art qui ensuite est réutilisée à des fins pratiques. Moi, je pense que le message est très important, mais effectivement, derrière l'art, il y a l'artiste. Et c'est aussi ça qui fait que une œuvre ne peut pas factuellement être générée par une IA parce qu'il n'y a pas d'humain derrière. Il n'y a pas eu de réflexion, de sentiment, d'émotion qui a été ingérée. Parce que, basiquement, c'est juste un programme qui déroule son code.
Il y a aussi la question de est-ce qu'une œuvre d'art se doit d'avoir un message? Alors, de fait, oui, parce qu'il y a cette fameuse phrase de « tout est politique », qu'on le veuille ou non, malgré les intentions de l'auteur, malgré tout a un sens politique malgré tout, et tout a un message volontaire ou non. Est-ce qu'une œuvre d'art se doit d'en avoir un de manière volontaire de la part de l'auteur?
Quand tu parles de message, est-ce que tu sous-entends message politique?
Message politique ou message engagé, ou est-ce que chaque œuvre doit vouloir dire quelque chose sur tel sujet?
Je suis pas certaine de ça, moi personnellement. Je suis pas certaine de ça parce que je pense qu'on peut faire des œuvres dans un but purement admiratif. Par exemple, je sais pas, un artiste qui va peindre un paysage parce qu'il le trouve sublime et qu'il est transcendé d'une émotion qu'il a jamais ressentie. Le message, encore une fois, ça peut être simplement j'ai trouvé ce paysage magnifique et je veux vous le partager. Mais ça reste un message à mes yeux. Mais c'est pas forcément politique, je dirais.
Ou j'adore les pâtes au pesto, encore une
Exactement.
Fois.
Exactement, un très bon message.
C'est vrai. Et puis même, imaginons, je reprends mes coques de téléphone. Si quelqu'un fait une coque de téléphone avec Cinnamon Roll de Sanrio ou Hello Kitty, et que demain, Hello Kitty, elle décide de financer des projets de bombardement, et que je suis avec ma coque Hello Kitty, bon bah ça voudra dire quelque chose aussi.
Oui. Ouais. Exactement. Exactement. Et ça, c'est un truc dont on ne peut pas se détacher. Tout a une signification. Aujourd'hui, porter un pull McDo dans le monde dans lequel on vit, moi je suis désolée, mais ça a un sens. Ça veut dire que t'en as rien à faire de ce qui se passe autour et t'en as rien à faire qu'il y ait un génocide actuellement.
Mm-hmm. Ilona, t'as quelque chose à dire? Visiblement,
Je réfléchis. Ouais, non, mais. Je pense pas que tout type d'art soit politique, mais c'est vrai qu'à partir d'un moment, il y a une intention derrière, il y a une réflexion, il y a un désir de montrer quelque chose. Et plus que la politique, ça reflète... pour moi, il y a toujours un message derrière.
Oui. Ouais.
Je sais pas si je crois trop à l'art pour l'art.
C'est aussi tout le truc de... En fait, avoir l'occasion de faire une œuvre d'art, ça veut déjà dire beaucoup sur la personne, sur le parcours qu'on a vécu, parce que tout le monde n'a pas forcément accès à la possibilité déjà de consommer de l'art et d'en faire encore plus, et qui est encore encore moins accessible.
Et là, j'ai un exemple tout bête qui me vient en tête, mais il y a le monochrome de White Man. C'est une œuvre, enfin c'est une toile qui a été peinte en blanche, et c'est complètement fou parce que en fait. Il y a forcément une intention derrière le fait même d'avoir peint la toile. Et enfin, je trouve ça fou parce que même dans les trucs les plus insignifiants, il y a quelque chose. Mmh. Et si tu demandes à des théoriciens, ils vont te dire que c'est pour représenter la société de consommation ou je sais pas quoi. Il y a quelque chose derrière toute forme d'art.
Et c'est quelque chose qu'on va développer au fil de l'émission. Merci beaucoup, Ange.
Avec plaisir.
Slime. Un vendredi par mois à 19h. Sur Radio Campus Paris.
Et on va continuer à développer tout ce sens d'engagement au sein de la comédie musicale avec toi, Ilona.
Absolument. Car oui, Gauthier, il existe un très, très grand nombre de manières de lier Broadway, de lier la comédie musicale à l'engagement. Et on peut le décliner de plein de manières différentes, que ce soit un engagement politique, un engagement envers des valeurs, ou alors l'engagement envers la préservation de la dignité de tous ceux ayant déjà joué avec James Corden. Oui, désolé, il faut que je place ma haine de James Corden au moins une fois à toutes les émissions. Et maintenant que c'est fait, installez-vous, on peut commencer. Mais là, je vais vous parler d'un engagement social. Parce que oui, c'est une thématique qui est de plus en plus présente, mais aussi de plus en plus menacée dans un contexte politique chaotique et absolument apocalyptique comme celui qu'il y a en ce moment aux États-Unis. Enfin, en ce moment dans le monde généralement. Ouais. Et là, du coup, Broadway est donc focus sur les US. Et donc, c'est d'inclusion qu'on va parler aujourd'hui. Parce que Broadway s'engage en théorie à garantir l'inclusion de tous et l'égalité des chances. Mais dans quelle mesure est-ce que c'est réellement le cas ? Est-ce qu'on peut réellement y croire ? Bref, cher Broadway, es-tu si inclusif que ça ? Est-ce que ton engagement ou ta volonté d'engagement porte ses fruits ? C'est ce que nous allons découvrir maintenant ! Parce que oui, l'inclusion et la diversité à Broadway, c'est pas si évident que ce que dit Andrew Rannells dans sa chanson Acceptance Song dans The Prom. Let us accept one another. I know it's truly hard. We're sister and brother. Here's what I learned at Juilliard. Eh oui, au-delà des bourdons et des bébés qui acceptent le sein maternel, c'est une vraie problématique qui se pose. Le théâtre est supposé mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Sur scène, les barrières s'effondrent, en théorie. Un acteur est un acteur, et ce, peu importe ses capacités physiques, son apparence, ou encore sa couleur de peau. Enfin, encore une fois, ça c'est que de la théorie. L'inclusion et la diversité à Broadway, c'est complexe. Parce que les personnages en situation de handicap existent à Broadway depuis bien longtemps. Un des exemples les plus flagrants, c'est Nessa Rose dans Wicked. Sauf que celle-ci est directement caractérisée par ça. Donc on se dit que ça pourrait être un côté inclusif, mais en fait non, c'est le seul truc par lequel on la reconnaît dans le premier acte de Wicked, ce qui est assez dingue. Parce que c'est son handicap qui en fait un personnage intéressant dans l'histoire. Et c'est son handicap qui apparaît comme une excuse au fait que Glinda demande à Bock de l'inviter au bal. See that tragically beautiful girl, the one in the chair. It seems so unfair, we should go on a... Qui plus est, elle est dite tragiquement belle. Parce que ce qui la rend tragique, c'est qu'elle peut pas marcher. Mmh. Forcément. Ça semble un chouï réduire le personnage à une caractéristique physique, non ? Son handicap est dépeint comme une entrave à sa beauté. Comme une injustice. Couplé à ça, le fait que pendant super longtemps, c'est des actrices complètement valides qui ont joué le rôle de Nessa. Donc c'est...
super.
Pas très inclusif, encore une fois. Mais... je ne fais pas que râler sur les défauts en matière d'inclusion, parce que les temps changent, du moins ils essayent de changer. Et à présent, de plus en plus d'actrices en situation de handicap jouent Nessa Rose, à commencer par Marissa Bodie, qui l'incarne dans le film. Elle est devenue un véritable symbole d'espoir pour les acteurs en situation de handicap qui considéraient ça comme un obstacle à leur réussite. C'est aussi le cas de son double miniature trop mignon qui joue Nessa enfant. Marissa Bodie est la première actrice à incarner le rôle qui ne se déplace qu'en fauteuil. Elle explique dans une interview que cette opportunité lui a permis de se démarquer dans un monde qui manque clairement d'accessibilité aux personnes handicapées et qu'elle voit ça comme un bon signe pour le futur, en particulier au sein du milieu du show business. Donc, pour ce qui est de la scène broadwayienne, de plus en plus d'acteurs en situation de handicap s'y font aussi leur place. C'est le cas, par exemple, de l'incroyable actrice Jenna Bainbridge dans la comédie musicale de Shaina Taub, Suffs, par exemple, qui est très cool d'ailleurs, écoutez tous. Bref, depuis Alice Stroker, qui a été la première artiste en fauteuil roulant à jouer à Broadway et à gagner un Tony Award, les choses ont bien évolué et plusieurs symboles d'espoir et d'inclusion ont fait surface afin de montrer que oui, il est possible d'être une personne à mobilité réduite et d'être à Broadway. L'un n'annule pas l'autre et en fait une force au contraire. Donc l'engagement envers l'inclusion, c'est de plus en plus considéré et pris au sérieux comme il se doit. Mais, encore un grand mais, il faut aussi parler d'un autre type d'inclusion parce que de plus en plus, Broadway laisse place aux personnes atteintes d'un trouble du spectre autistique, ce qui est formidable. Pour ça, je vais parler de la petite merveille du monde qu'est la comédie musicale How to Dance in Ohio. Elle a été écrite en 2015 par Jacob Yandura et Rebecca Greer-Melosik. C'est par exemple une pièce très engagée en faveur de l'inclusion, puisque l'histoire est tirée du reportage du même nom réalisé quelques années plus tôt, dans lequel on suit l'histoire de Caroline, de Tommy, de Drew, de Jessica, de Maridette, de Mel et de Rémi, qui sont des jeunes atteints d'un trouble du spectre. Et on les suit donc dans leur routine journalière. On suit aussi le docteur Amio qui les accompagne tout au long de leur vie de jeunes personnes autistes. C'est le tout premier show à Broadway qui compte dans son casting des personnes autistes pour jouer des personnages autistes. Nous y sommes, les amis.
Bravo !
Le progrès, l'inclusion. La pièce, qui a malheureusement dû fermer assez vite, a été saluée par la critique comme un petit chef-d'œuvre. Et c'est pour ça que je vais faire chatoyer vos oreilles avec un petit extrait. Régalez-vous, installez-vous, c'est moi qui offre. Baby, we all have this in common. Il faut aussi souligner qu'au sein de cette production, tout était fait pour s'adapter à la situation des acteurs. Une vidéo publiée sur leur compte Insta officiel montrait par exemple qu'ils avaient des petites fiches d'humeur sur leur porte afin que tout le monde puisse comprendre et respecter la manière dont ils se sentaient et dont ils voulaient communiquer. Donc ça, c'est vraiment un signe de progrès méga important. On leur impose plus une manière de vivre, mais on les écoute de telle manière à ce que eux nous laissent accéder à la manière dont ils pensent. Ce qui est absolument formidable. C'est donc une pièce inclusion friendly et on en veut plein d'autres des comme ça. Parce que j'aimerais qu'on manifeste tous ensemble pour la réouverture de How to Dance in Ohio. Merci.
Manifesting.
Mais pour rester sur le même thème, tout en changeant de perspective, il faut aller voir du côté du public. Car que serait le théâtre dans son public, sans son public plutôt?
Oh là là.
Rien, nada. Que dalle, nothing. Et je dirais même. And I said, nothing, I'm feeling nothing. Comme le dit si bien Morales dans A Chorus Line. Sauf que, entre les histoires abracadabrantesques, les effets spéciaux, les lumières stroboscopiques, et il y a plein de personnes qui souffrent d'une sensibilité plus accrue, qui ne se sont pas senties bienvenues pendant très longtemps dans les théâtres. Certains même évitaient d'aller au théâtre pour ces raisons précises. Mais depuis quelques années, on a vu apparaître les Relaxed Performances. Ce sont des performances spéciales, inclusives, qui garantissent une expérience théâtrale adaptée. Les acteurs interagissent avec le public avant le show pour leur expliquer le déroulement de la séance. Les lumières sont baissées, ou du moins moins violentes, et pareil pour les effets sonores. Aussi, les lumières de la salle ne sont jamais totalement éteintes, donc le public peut en sortir directement en cas de problème, ou s'ils se sentent juste mal, ou s'ils ont envie d'évacuer un petit peu. Donc ce concept s'est surtout développé dans les pays anglo-saxons, mais on espère que ça se développera dans tous les pays parce que c'est une initiative essentielle. Évidemment, l'engagement envers l'inclusion ne concerne pas seulement le handicap. Dans un contexte politique qui incite à la haine et à la division, on doit souligner que l'inclusion ethnique est aussi un sujet à aborder. L'exemple le plus flagrant, selon moi, c'est... I am not thrown away my shot. I am not thrown away my shot. La diversité est au cœur même de la pièce et de la DA de Lin-Manuel Miranda, ce qui est vraiment super engagé en soi, parce que la pièce permet à des personnes qui ne sont pas blanches et qui ne ressemblent pas aux personnages historiques d'origine, de jouer ces personnages qui sont déjà connus du public et très codifiés. Dans la pièce, Hamilton ne ressemble pas du tout au Hamilton des billets de banque. Et ça, c'est un vrai symbole de progrès et d'inclusion. C'est un engagement qu'on ne retrouverait pas du tout au cinéma, par exemple. Parce qu'au cinéma, on recherche une ressemblance. Au théâtre, on recherche une incarnation. Lin-Manuel, c'est le king de l'engagement, puisqu'il crée aussi les performances Ham for Ham, qui sont des performances de Broadway qui se jouent devant les portes du théâtre où il y a Hamilton. Et ça permet à tout le monde de pouvoir en profiter. Ce qui est vraiment incroyable. On dit merci qui ? Merci Lin-Manuel.
Merci Lin-Manuel.
Merci. Pour finir, il faut mentionner quand même qu'il y a un très grand nombre d'organisations et d'assos qui portent à Broadway cet engagement envers la diversité sous toutes ses formes. On peut par exemple mentionner Belonging Broadway, une organisation partenaire du New York Times, et donc qui est par exemple et par essence surtout très engagée et très politisée. Et elle s'assume absolument en tant qu'organisation politique. Elle vise à garantir l'égalité, à souder une communauté accessible et bienveillante et à sensibiliser sur le besoin constant d'ouvrir le monde broadwayesque à tous. On peut aussi citer l'association You Too Can Imagine, dont le rôle est de partager les témoignages afin de renforcer l'engagement envers l'inclusion et la diversité. Bref, même si c'est loin d'être une inclusion parfaite, Broadway s'engage à tendre vers celle-ci. La prochaine étape, ce sera de faire survivre au sein d'un pays qui tombe peu à peu en miettes et dans lequel elle doit lutter pour exister, une certaine inclusion et de maintenir cette volonté de garder les choses en place. L'engagement envers l'inclusion, c'est un engagement contre la volonté de séparer les peuples. Et en soi, ça surpasse de loin la seule sphère isolée du théâtre. C'est un acte politique, un acte fort, un acte révolutionnaire, un peu comme Hamilton, un acte engagé. Encore une fois, on dit merci Broadway. Merci,
merci Broadway.
Et surtout, bah, merci Ilona pour cette chronique bien fournie. Je te dis merci quand même. Il y a un truc quand même, c'est que on sent quand même que Broadway essaye quand même. Il y a pas mal de théâtres qui essayent d'aller vers cette inclusion. J'ai parlé notamment de l'accessibilité dans les théâtres pour les personnes à mobilité réduite. J'avais vu un TikTok d'une des actrices qui jouait Nessa Rose dans Wicked. Et qu'en fait, qui disait que malgré tout, qui était elle à mobilité réduite, en fauteuil roulant, malgré tous les efforts qui avaient été faits, ben en fait, il reste quand même beaucoup de marche dans les théâtres et qu'en fait, même pour les coulisses, même pour les comédiennes, pour les comédiens, et qu'en fait, peut marcher un peu, mais en fait, il faut qu'elle prenne son fauteuil pour passer les marches, en fait, systématiquement. Donc, on sent qu'il y a un effort, mais en fait, aussi, c'est un peu le problème, entre guillemets, de l'inclusion dans... Enfin, de l'accessibilité dans beaucoup d'endroits, c'est des vieux bâtiments, quoi.
Ouais,
donc,
c'est ça.
Faut faire de la réadaptation, etc.
Et puis, il y en a qui te diront que pour préserver le côté historique et le côté esthétique du théâtre, ils veulent pas faire de rénovation, mais au final, t'empêches toute une partie de la société d'y aller, donc ça sert à quoi d'avoir un théâtre ?
Ouais, c'est ça. Bon bah écoute, merci Ilona pour toute cette chronique.
Ça fait grand plaisir, merci à toi mon très cher.
Slime, un vendredi par mois à 19h, sur Radio Campus Paris.
Est-ce que vous avez des doubles standards ? Oui, tout le monde en a.
Pas moi.
Aucune. Bah, tu es différente, Élise. Faire une activité tout en sachant qu'il n'y a pas que des bons côtés, en sachant que ça nous fait plaisir quand même, mais avec un petit arrière-goût de culpabilité. Eh bien, ici, je vais vous parler de double standard au sein du sujet qui nous intéresse, dans la comédie musicale. Et comme mes professeurs au long du collège et du lycée me l'ont appris, faire une problématique. Jusqu'à quand une œuvre d'art reste une œuvre d'art quand les conditions de son exploitation vont parfois à l'encontre de son message initial? Je vais vous parler de deux comédies musicales dont on a beaucoup parlé dans Slime, Hadestown et Hamilton. Pour Hadestown, remise en contexte. On reprend le mythe grec d'Orphée et d'Eurydice, deux amants. Eurydice meurt, Orphée va aux enfers pour la chercher. Il a droit à la ressusciter sous une condition, qu'elle suive Orphée jusqu'à la sortie des enfers sans se retourner. Que Orphée ne se retourne pas, et il y arrive, jusqu'à ce qu'il arrive aux portes des enfers, où il se retourne et... Ciao Eurydice. Et vas-y Orphée, il est triste quoi. Dans cette réécriture par Anaïs Mitchell, dans la comédie musicale Hadestown, on a une particularité en plus. Aux enfers, on retrouve des travailleurs qui sont employés d'Hadès, le patron des lieux. Ceux-ci sont des âmes perdues, des morts qui, depuis leur mort, travaillent sans relâche pour construire un mur. Mur dont on ne connaît pas vraiment l'utilité, à part qu'il va, d'après Hadès, nous garder en liberté et nous protéger de l'ennemi. Quelle liberté, quel ennemi ? On le sait pas, mais on obéit. On construit sans réflexion. On a fini tellement aliéné par le travail qu'on n'arrive plus à réfléchir parce que quand on finit de travailler, on se repose. Et quand on a fini de se reposer, on travaille. Et ça, pour l'éternité, parce que quand on aura fini le mur, il y en aura un autre à construire, parce que l'ennemi n'arrêtera jamais de nous attaquer, parce que c'est des jaloux, parce que nous, on a du travail, et eux, ils n'ont pas de travail. Et je vous renvoie vers la chronique de Ange, il y a quelques émissions qui avaient bien parlé de ce sujet. Au milieu de ce statu quo qui semblait être bien parti, arrive Orphée. Lui, il vient pour sa copine, à la base, qui a nouvellement rejoint cette petite troupe de travailleurs. Mais il trouve que c'est pas juste, tout ça. Alors, sans trop le prévoir, il se retrouve à être le porte-voix de ces âmes, à leur faire prendre conscience qu'ils ont le droit de demander plus de respect, plus de dignité. Ce que devient Orphée, finalement, c'est un délégué syndical. Orphée, vous lui rajoutez une moustache et c'est Philippe Martinez. Il est à la CGT et il milite pour le droit du travailleur. Ces derniers finissent d'ailleurs par prendre conscience que c'est pas normal, c'est qu'on dit des conditions telles, et finalement finissent par se rebeller contre Macron, contre Hadès. Et ça rend l'histoire encore plus tragique quand Orphée se retourne à la fin, parce que ce n'est plus seulement le destin d'Eurydice qui est en jeu, mais le destin de toutes les travailleuses, tous les travailleurs à l'intérieur desquels Orphée a fait naître une conscience de classe, une conscience de leurs droits, et à qui il a appris les paroles de l'Internationale. Quelle ne fut pas la surprise d'apprendre que, quand Hadestown est partie en tournée aux États-Unis, celle-ci allait être non-equity, ce qui signifie que les actrices, régisseuristes qui travaillent sur cette tournée ne sont pas membres de la Actors Equity Association, le principal syndicat des acteurs de théâtre aux États-Unis, ce qui permet de payer tous les gens moins que les tarifs de base exigés par les syndicats, de demander des rythmes bien plus cadencés entre les spectacles, et de globalement bien moins respecter les droits des travailleuses sur le spectacle, que ce soit sur scène ou en coulisses, ce qui, vous l'aurez compris, va complètement à l'encontre du message de la pièce, et c'est questionnant parce que d'un côté c'est aussi une production qui va d'ailleurs qui va ailleurs qu'à Broadway, qui permet d'aller dans des théâtres plus petits, de coûter moins cher à la fois aux théâtres qui veulent programmer le spectacle et également au public qui devrait sinon se rendre à Broadway puis payer la place à Broadway à un prix exorbitant. Et c'est vraiment pas le cas de tout le monde qui peut se permettre ça. Vous vous en doutez bien. Mais alors, c'est quoi la solution ? Parce que le prix plus bas, c'est justifié par le salaire moins élevé des artistes. Alors, est-ce qu'il faut une tournée uniquement en syndicat ? Est-ce qu'il faut des prix bas pour le public au détriment des artistes ? Est-ce que le problème, ce serait pas le capitalisme et le besoin d'avoir de l'argent pour vivre décemment, finalement ? Hamilton. Ilona, tu l'as super bien rappelé, dans le principe même de Hamilton, faire jouer des figures historiques de l'histoire des États-Unis par des personnes racisées, c'est engagé, c'est politique. Mais là, on peut quand même se poser quelques questions, c'est dans l'exploitation de cette œuvre. Parce que oui, en effet, Hamilton, c'est vraiment très bien dans la représentation de minorités, et même avant ça, dans la première comédie musicale de l'auteur, Lin-Manuel Miranda, In the Heights, il y avait cette volonté de représenter des personnes qui ne l'étaient pas à Broadway jusqu'ici. Mais ceci dit, les prix pour aller voir Hamilton restent les mêmes. Imaginons si vous aviez voulu aller voir Hamilton à Broadway ce soir sur un coup de tête à 19h, au lieu d'écouter la superbe émission Slime qui vous parle de comédie musicale un vendredi par mois à 19h sur Radio Campus Paris, eh bien ça vous aurait coûté... Allons, jouons au jeu du juste prix. Là, je suis votre Vincent Lagaffe ce soir. Allez, devinez le prix que ça coûterait.
295 $.
Le prix le moins cher, c'est moins que ça.
Ah oui, le moins, pardon, le moins cher. J'étais sur le plus. 78
bien
dollars.
Plus.
166
un peu
dollars.
Moins, un
125
peu moins.
125
un peu plus quand même.
156
plus.
162,50
dollars.
Dollars.
Oh là là.
C'est une somme. Et voilà. Exorbitante. Moi, mes yeux sont sortis de mes orbites quand j'ai vu cette scène, je vous préviens. Et en effet, on peut pas dire que Lin-Manuel Miranda n'a rien fait pour faire en sorte que les personnes qu'il représente dans ses pièces aillent au théâtre, mais c'est toujours extrêmement cher, d'autant plus pour des populations qui vivent déjà la pauvreté de par le fait qu'elles fassent partie de minorités. J'irais presque jusqu'à dire, attention, je vais dire un truc, qu'il y a une forme d'hypocrisie. De se contenter de venir sur les plateaux et même de tourner dans la série Percy Jackson sur Disney+, en étant très content de la place qu'il s'est faite dans les milieux mainstream, sans jamais re-questionner ce statu quo de Broadway, malgré les performances Ham for Ham dont tu as parlé, Ilona. Parce que Broadway, c'est quelque chose qui reste malgré tout accessible en grande majorité à une élite, qui a cette habitude d'aller au théâtre, qui a l'argent pour aller au théâtre, et même qui se disent qu'ils font une bonne action en allant voir Hamilton, une pièce engagée, et qu'ils ont fait leur petite action woke du mois. Finalement, en vérité, toute cette industrie de Broadway impose un double standard. Parce que pour les gens fans de comédie musicale, c'est super beau, c'est excitant, on a des paillettes dans les yeux quand on va voir une pièce. Donc on se dit que ça vaut le prix, parce que c'est pas tous les jours qu'on va voir ça. Et quand on est artiste à Broadway, ça représente parfois un rêve tel d'y travailler qu'on n'ose pas re-questionner les choses, ou même qu'on ne voit pas ces problèmes-là qui existent et qui doivent être adressés tôt ou tard. Parce que, je vous répète ma question, jusqu'à quand on va considérer que ces œuvres-là sont toujours des œuvres d'art et pas un commerce qui ne cherche qu'à faire toujours et toujours plus d'argent. Merci de m'avoir écouté. Est-ce que vous avez une réponse peut-être à cette question ?
c'est réel. Brûler le capitalisme me semble être la seule issue. N'hésitez pas à rejoindre mon association et venir sur mon site web brûlerlecapitalisme.com.
Je suis très d'accord avec ça.
Je trouve que le côté... déjà, le prix des tickets à Bordeaux est absolument exorbitant. Et je trouve aussi qu'il y a un souci dans le prix du merch. Je vais faire mon petit coup de gueule ce soir, si vous me le permettez. C'est indécent de devoir payer 25$ pour un set de cartes postales. À un moment, stop.
C'est une honte, tout simplement.
C'est une honte. Ouais. Je trouve que c'est terrible. Et je trouve aussi que... Quand tu vas, par exemple... quand tu vas voir une comédie musicale à Broadway, que tu prends un petit coca dans un verre sérigraphié au nom de la comédie musicale, ça te coûte plus cher que si c'était mis dans un autre verre.
Ah oui.
De plusieurs dollars.
Parce que tu gardes le verre derrière ?
Alors, il y a plein de gens qui le jettent. Et du coup, quand t'es un rat comme moi, tu récupères le verre.
Juste quand t'es pas riche, quoi.
Quand t'es normal, je pense.
Quand t'es normal. Donc voilà, personnellement, je suis pas prête à mettre 10$ dans un coca parce qu'il y a un verre qui va avec. Et je trouve que c'est contre les valeurs de ce qu'essaye de transmettre Broadway de base.
C'est ça, et en fait, c'est presque de l'exploitation en fait, des personnes plus ou moins. Dans une espèce de pauvreté aussi. Ange ?
Il y a aussi quelque chose, merci Gauthier pour la parole, il y a aussi quelque chose, c'est que ça dénature complètement le concept à l'origine. L'art, c'est par le peuple et pour le peuple. On se souvient de ça. L'art, c'est pas quelque chose d'élitiste à l'origine. L'art, c'est populaire. C'est ça la base. L'idée même, avant Broadway, on se rappelle des fondements de Broadway, l'idée, c'est que c'est dans une rue où il y a plein de marchands de musique et tout le monde veut faire de la musique ensemble. C'est ça la base. Et après, on capitalise dessus. Et ça, c'est extrêmement hypocrite et c'est navrant.
Élise ?
Oui, je trouve ça assez terrible que quand même on soit né de... c'est quand même parti de sortes de grandes jam sessions dans des bars et ça a terminé dans des salles immenses avec des places qui vont entre 170 et 500 euros. Et avec 500 euros, attention, vous avez la coupe de champagne au fournis. C'est une affaire en or.
Une seule coupe, pas plus.
Ouais, ne soyez pas trop gourmand.
Vous savez que... Alors, à un moment, je faisais énormément de recherches autour de Dear Evan Hansen. J'allais parler en anglais. J'allais dire « because ». Jamais je fais ça. Pourquoi à la radio maintenant? tu pouvais payer 2000$ pour... Oui, accrochez-vous. Pour prendre un petit dîner avec un des acteurs et avoir une visite personnalisée du théâtre et une coupe de champagne et un peu de merch.
Ah ouais.
Sauf qu'il y a d'autres manières de passer du temps avec des acteurs gratuitement. Tu vas faire la stage door et tu leur papotes un petit peu et tu leur expliques que t'es fan d'eux et que t'aimerais bien discuter. Et parfois, ça peut marcher. C'est pas la peine de mettre 2000 balles dans un dîner. J'espère que le repas est bon, au moins.
Et je vais terminer en disant que je pense que malgré tout ce qu'on dit dans Slime, on est fan de comédie musicale, on adore, etc., il y a quand même un recul à faire sur toute cette industrie, un recul à prendre sur... mais ça reste accessible à une élite. Et la plupart des spectacles qu'on a vus, c'était sur YouTube parce qu'il y avait une brave personne qui filmait depuis le public en se faisant chut par les agents qui étaient autour, quoi. Donc il faut quand même garder ça et en fait essayer de militer pour avoir quelque chose de plus accessible et de plus populaire. En tout cas, c'est la fin de ma chronique, écoutez.
Slime, un vendredi par mois à 19h sur Radio Campus Paris.
Et Ange, je te laisse la parole pour ta grosse chronique.
Ma grosse chronique qui va être quelque chose qui me tient à cœur. Selon le Robert, se révolter. Se révolter est défini comme se dresser, entrer en lutte contre le pouvoir, l'autorité. Commençons par réfléchir au sens de ces mots. C'est quoi l'autorité ? Toujours chez le Robert, droit de commander, pouvoir d'imposer, l'obéissance. L'autorité représente un rapport vertical, une relation inégale entre celui qui commande et celui qui est commandé. L'autorité n'est pas fondamentalement négative. Un enfant, par exemple, est sous l'autorité de ses parents pour sa survie. Si personne ne lui interdit de traverser au feu rouge, il y a des risques qu'il se fasse renverser par une voiture. Pourtant, c'est un terme connoté assez péjorativement. Si je vous parle de régime autoritaire, vous avez immédiatement en tête des dictateurs, des répressions, des pouvoirs abusifs envers le peuple. Nous sommes dans une émission de comédie musicale, alors parlons de comédie musicale. Vous connaissez Cabaret ? Cabaret est une pièce datant de 1966, avec un livret de Joe Astoroff, des musiques de John Kender et des paroles de Fred Ebb. La pièce originale se déroule dans l'Allemagne des années 30. Donc, pour rappel, hein, Hitler prend le pouvoir en 1933. Voilà, là vous avez le contexte. Je trouve que cette pièce illustre parfaitement le propos de notre émission. On se retrouve au KitKat Club, une boîte berlinoise où évoluent des artistes, avec en parallèle la montée insidieuse du nazisme. C'est cette situation très particulière, où les indices sont subtils et pourraient passer inaperçus. Mais dès le moment où on les remarque, on se rend compte qu'il est trop tard et que l'on est pris au piège depuis bien longtemps. Parce que c'est ça, hein, le fascisme. Des mesures qui passent en cachette, n'est-ce pas l'Assemblée nationale, hein ? Des comportements qui se transforment peu à peu. L'hostilité envers l'autre, progressivement décomplexée, jusqu'à devenir la norme. Le fascisme, c'est l'oppresseur qui assoit son autorité sur l'oppressé, à grande échelle. Les plus faibles se font écraser par les plus forts. Ce n'est pas uniquement un combat d'opinion. C'est tout un pan de la population qui se retrouve réduit au silence par le biais de l'usage de la force avec un traitement discriminatoire. Dans Cabaret, ça commence subtilement avec « Tomorrow belongs to me ». C'est déjà plus figuratif, hein, et je parle d'antisémitisme, hein, si ce n'est pas assez clair encore, dans « If you could see her ». Et ça se termine avec une Sally qui fait mine, que dis-je, qui fait le choix de ne pas voir les croix gammées autour d'elle, préférant ignorer l'évidence et la réalité nouvelle dans laquelle elle vit désormais. Allez, quittons la sphère du fascisme et dirigeons-nous vers un problème d'actualité, le fascisme... Pardon. Le patronat, écoutez, je m'excuse. Je vous présente mes excuses les plus plates. J'ai sincèrement essayé de ne pas en parler, je vous jure, m'attachez pas. Mais j'avais l'impression que tout me ramenait à ce spectacle constamment. Alors parce que tout converge, que les actualités politiques et musicales ont décidé de se mettre d'accord, par pitié, ne soupirez pas. On va reparler un petit peu de The Last Ship. En fait, j'en reparle aussi parce que la dernière fois que j'ai pu le voir, il s'agissait d'une captation de 2014. Or, le spectacle qui se joue actuellement est fondamentalement différent. Pour mon plus grand plaisir, j'y ai assisté en compagnie de mes comparses Gauthier et Élise. Et je ne suis pas 100% sûre qu'ils aient vécu l'épiphanie que j'ai ressentie. Mais en revanche, je peux vous affirmer qu'à l'heure actuelle, nous sommes face à un spectacle extrêmement engagé dans son propos. L'histoire d'amour de cette enflure de Gideon est désormais un point secondaire de l'intrigue. Et d'ailleurs, je me permets de souligner que j'ai trouvé les personnages féminins bien plus percutants, bien plus forts qu'à l'époque. J'ai l'impression qu'il y a eu volonté dans la réécriture et la mise en scène de les mettre davantage en avant, presque plus que les hommes. Car au final, c'est elles qui ont les développements et les enjeux les plus complexes, je trouve. Mais ce qui fait surtout briller cette pièce, c'est les messages qu'elle véhicule. On se retrouve plongé dans la tourmente, au milieu des travailleurs, sur un chantier naval, au bord de la faillite, à qui on annonce un chômage durable et non négociable. On assiste à leur rébellion, on souffre de voir à quel point le travail leur a détruit la santé, et que malgré tout, ils sont tous incapables de s'abandonner, car ils sont ensemble dans cette épreuve. On parle de patronat tyrannique, du caractère remplaçable de la main-d'œuvre inconsidérée, de manifestations, de répression et de violences policières. Et j'ai pas peur de le dire, hein, à une heure où dans notre monde, en France, ce sont des faits qui sont volontairement tus, voire censurés, et voire même dont les auteurs de ces dites violences se retrouvent dédommagés et indemnisés financièrement, comme dans le cas de la mort de Naël le 27 juin 2023, eh bien ça fait plaisir de voir un spectacle du côté du peuple, des ouvriers, de ceux qui se tuent à la tâche pour un semblant de salaire. Quand je vends ce spectacle autour de moi, j'ai toujours le sentiment de devoir me justifier. Parce que, ouvrez les guillemets, hein, un chantier naval, c'est pas très glamour, en vrai. Et c'est ça le problème. Le travail, c'est pas glamour. Pour beaucoup, le travail, on y vit et on y meurt. Et on ne pourra peut-être jamais se défaire de cela. Mais on peut se battre. On peut se battre pour faire entendre nos voix. Il faut se battre, car nos droits et notre semblant de confort ne sont jamais acquis. Et n'importe qui possédant un peu plus d'argent et de pouvoir que nous peut faire voler cela en éclats. Avant de conclure mes élucubrations, j'aimerais me permettre une digression. L'art, c'est quelque chose d'éminemment populaire. L'art existe pour casser les codes et exprimer des revendications. De tout temps, on a cherché à censurer les artistes, que ce soit avec la politique McCarthy aux États-Unis ou bien à l'exemple qui va suivre. Avez-vous déjà entendu parler d'art dégénéré ? Question que je vous pose.
Oui.
Ok. C'est une expression qui date de 1937. Est-ce que ça te parle un petit peu, Gauthier ?
Oui, c'est, je peux expliquer ?
Oui, bien sûr.
C'est l'art qui était désigné par les nazis pour dire que c'était l'art pas normal, qui n'était pas dans la norme, et pour réprimer les opposants.
Exactement, c'est tout à fait ça. Donc, ça vient effectivement des nazis. Ça désigne l'interdiction stricte, précisément, de toute forme d'art moderne, dans le but de ne conserver que les œuvres néoclassiques, donc servant à la propagande du Troisième Reich. Hein. On retourne un petit peu sur ce côté art pour l'art. On fait des œuvres qui sont censées reproduire les œuvres classiques, donc ce qui est considéré comme le beau. Des artistes comme Klimt, Schiele, Dix ou même encore Soulages hein, se retrouvent concernés et censurés à cause de la montée du fascisme et de la restriction des libertés d'expression. Klimt, quand même, le baiser de Klimt, c'est quelque chose, vous vous rendez compte? Et je sais que ça nous paraît bien loin, mais nous devons rester vigilants. Dans un pays où, historiquement, l'extrême droite n'a jamais été aussi haute dans les sondages, nous devons et devrons nous battre pour conserver notre liberté, notre si chère et si fragile liberté.
Merci Ange pour ce message, toute cette insurrection contre l'extrême droite et le fascisme qui, aïe, j'ai envie de dire, qui nous a fait un petit peu peur, mais écoutez.
Oh, qui nous fait toujours peur, hein. Moi personnellement je suis terrifiée par la montée du fascisme, voilà.
Eh bien, écoutez, on va respirer un petit peu, on va écouter tout de suite Building Momentum de la comédie musicale dont tu parlais tout à l'heure, Ilona, How to Dance in Ohio.
I've been making good grades, good friends, good progress. This year has been a personal best. Except my love life was stalled like this concept in physics. An object at rest stays at rest. But then you suddenly gave me the chance to find the guts to ask her to dance. But the hardest part was to start. Building momentum, the very beginning. Building momentum, the energy spinning. Moving with purpose and picking up speed has taught me the one lesson I'll ever need. The first step to succeed is building momentum. Let's throw a new dance tomorrow. Let's use the center and we'll cater all our favorite food. We'll clear the chairs to the wall. I bet Nell would DJ. Then I can bring smart lights to set the mood. I'll invite everyone personally or get my mother to do it for me. My mom's hard to refuse. We can't lose. Building momentum, I have to keep moving. Giving attention to what needs improving. Facing the fears that have kept me alone. Has filled me with confidence I've never known. Like I discovered my backbone. Building momentum. You don't know what she does to me. Like she rewired my circuitry. My operating system's reeling. And I can't bear to lose this feeling. Building momentum, the very beginning. Building momentum, the energy spinning. No way I'm throwing my best chance away. If I have to throw a new dance every day, it's the only way how to keep growing from now. Building momentum.
Building Momentum de la comédie musicale How to Dance in Ohio.
Slime, un vendredi par mois à 19h sur Radio Campus Paris.
Et pour terminer cette émission en beauté, et ben ça va être le tour d'Élise.
C'est à moi. Il peut parfois être difficile, quand on est extérieur au milieu du spectacle, ou simple consommateur, de s'imaginer ce que c'est vraiment d'être un artiste. La pression, les sacrifices, et les conditions parfois désastreuses. Quelquefois, on aimerait, nous, pouvoir vous montrer l'envers du décor, le monde dans les coulisses. Car quand une force supérieure à nous veut nous retirer nos droits, il peut être difficile de faire valoir notre cause aux yeux du grand public. Si seulement on pouvait vous faire comprendre. En 1975, un monsieur du nom de Michael Bennett a une très brillante idée, à mon humble avis. Il veut raconter la réalité des danseurs de Broadway, en spectacle, à Broadway. Et il veut le faire bien. Alors il organise des ateliers où il parle et crée longuement avec des danseurs. Il écoute leurs témoignages et leurs difficultés. Il recense la vraie vie de ces artistes de l'ombre pour finalement aboutir à un spectacle qui connaîtra un franc succès. A Chorus Line. Il en sera chorégraphe et metteur en scène et je trouve aura réussi à mettre le doigt avec justesse sur l'essence des métiers du spectacle vivant. Chaque personnage viendra nous raconter un petit bout de son histoire, partager son parcours et mettre en lumière des problématiques bien réelles. Alors je vous propose que l'on plonge un peu dans ce spectacle ensemble et que j'en profite un peu pour vous faire valoir nos combats. Pitié Dieu, j'ai besoin de ce travail. C'est ce qu'on vous racontera dans l'ouverture du spectacle God, I hope I get it. Une flopée de danseurs venus auditionner pour l'ensemble d'un spectacle de Broadway. Et je crois ne m'être jamais autant identifié à une phrase que Please God, I need this job. Parce qu'en France, quand tu es une jeune comédienne ou un jeune comédien, tu en arriverais presque à te rouler par terre pour avoir les miettes. C'est un milieu stressant, instable et hautement dépendant du bon vouloir de l'État. Puisqu'ici, pour gagner maigrement notre vie, on court après l'intermittence. Si vous n'êtes pas très familier, l'intermittence est un régime particulier où il faut remplir un quota de cachets, des heures symboliques en somme pour avoir le droit l'année suivante d'obtenir des petites aides financières pour avoir un minimum de revenus fixes. Et comme avoir des revenus fixes, c'est quand même assez agréable pour exécuter des tâches mineures telles que, je sais pas, par exemple payer son loyer, on en vient parfois à tomber bien bas. Entre dates éparpillées, mois à vie des productions qui payent avec 6 mois de retard, on se retrouve parfois à animer l'anniversaire du petit Lucas, 5 ans, et ses 15 amis, le tout déguisé en Luigi au milieu du parc de la Villette, contemplant toutes les mauvaises décisions qui nous ont amenés jusqu'ici. Et oui, il y a des images de nous-mêmes qui sont vraiment, vraiment dures à oublier. Pitié, j'espère que ce sera moi qu'ils prendront. Un sentiment généralisé, chanté en chœur par une assemblée de danseurs à la fois plein d'espoir et désespérés. Car quand on fait un travail que l'on aime, le refus constant et la peur d'échouer sont les plus grandes épreuves. En parlant d'un travail que l'on aime. At the Ballet est un numéro chanté en trio. Trois femmes qui racontent leur enfance difficile, famille dysfonctionnelle et sentiment d'être indésirable. Le ballet, le cours de danse classique, est leur seul échappatoire. Et même si là-bas, c'est loin d'être parfait, c'est là qu'elles se chantent... C'est là qu'elles se sentent chez elles. Le lieu où elles sont comme les autres, tout en se sentant spéciales. Les premières fois où l'on monte sur scène et qu'on se rend compte qu'on aime ça, le sentiment est très particulier. Un mélange de peur, d'excitation et d'euphorie qui, je crois, ne s'atténue pas tant que ça après les années. Parce que quand on est jeune, qu'on fait du théâtre, du chant, de la danse et qu'on y arrive, on se sentirait presque surpuissant. Alors quand on grandit et que ça continue, ce sentiment de brûler de la meilleure des manières, de se sentir transporté et de pouvoir transporter les autres avec nous, on se dit qu'on est prêt à tout sacrifier pour que ce sentiment soit notre gagne-pain. Mais la désillusion est parfois vite arrivée. Turns to me and he says, okay, Morales, what did you feel? And I said, nothing, I'm feeling nothing. Rien du tout, je n'ai rien ressenti du tout. C'est le constat de Morales dans Nothing, quand son professeur de théâtre lui demande ce qu'elle ressent quand elle imite par exemple un cornet de glace. Expérience racontée sur le ton léger d'une étudiante prête à défier ses professeurs qui se sent complètement à l'écart de sa classe qui semble boire les paroles de ce dernier. Bien que le numéro soit de nature comique, il expose une réalité des écoles de théâtre et autres joyeuseries. Beaucoup de jeunes arrivent, des rêves plein la tête, et en plus d'être facturés des sommes exorbitantes, se retrouvent piégés dans une bulle. Une bulle d'étudiants qui, désireux de prouver leur valeur aux yeux des saints comédiens de métier qui leur servent de professeurs, leur voueront presque un culte. Créant une atmosphère de compétition et un sentiment de mini-secte intra-établissement. Car tu as à peine 19 ans et ton professeur en a 50. Il a donc sûrement raison et déjà tout compris en sens du mot comédien. Et ces mots se doivent d'être érigés au rang sacré et irréfutable. Et ce pouvoir accordé à des professeurs mal sélectionnés a amené plus d'une fois à des abus en tout genre, comme on a pu le voir de trop nombreuses fois, notamment avec les affaires MeToo Théâtre. Mais personne n'en parle, car quand tu as un pied dedans, tu es aveuglé par l'envie de réussir, tu te plies aux requêtes et tu mets de côté ta morale. Au nom du grand théâtre. Et un jour, une professeure de chant te demandera peut-être pour qui tu auditionnerais pour Disney. Tu répondras quelque chose comme Elsa, naïvement et sans trop réfléchir, et alors devant toute ta classe, elle te dira « Mais non, c'est pas possible du tout ça. Tu sais, Disney, ils veulent vendre du rêve. » Et personne ne dira rien. Et tu rentreras chez toi en te disant que c'est toi le problème dans cette histoire. Et ce ne sera certainement pas la dernière fois où tu entendras des remarques désobligeantes sur le corps des femmes. And on a scale of 10, they gave me for dance 10.
for looks? 3. Well.
Dance 10, looks 3. C'est les notes qu'a découvert cette danseuse après son audition. Danse 10, apparence 3. Inutile de vous dire qu'elle n'a pas été retenue. Alors la solution était simple, la chirurgie esthétique. Si encore une fois le tombe est à la rigolade parce que... trop drôle, elle a dit le mot ass.
Tits and ass, bought myself a fancy pair.
Le problème soulevé, il est bien réel. La pression physique et le culte de l'apparence, surtout chez les femmes, soyons honnêtes. Car quand on est sur scène, il faut être belle, il faut être agréable, il faut qu'on ait envie de nous placarder en poster sur les murs de notre chambre, n'est-ce pas? Et quand on voit les critiques que subissent celles qui osent reprendre des rôles de jeunes premières fluettes sans la caricature de ce profil, on se dit que le patriarcat a des longs jours devant lui. Et je vous parle des femmes trans, des femmes noires, des femmes asiatiques et des femmes grosses qui se font insulter, menacer de mort, leurs moindres erreurs, leurs moindres fausses notes, leurs moindres mouvements ratés, scrutés à la loupe et republiés à l'appel sur internet. Tout ça pour avoir eu le malheur d'un jour jouer Anne Boleyn ou Elle Woods. Alors ces femmes seront dirigées vers les rôles de maman, de meilleure amie, de sidekick. Mais personne, non, personne n'est épargné. Parce que si vous êtes une jolie fille, petite, mignonne, classique en somme, on vous dira que dès comme vous, il y en a sur le marché à ne plus savoir quoi en faire et que vous n'avez aucune chance. À moins que vous ne vous pliez à une faveur ou deux, peut-être. Je crois que les directeurs de casting ont oublié que le théâtre, c'est pour de faux. On fait semblant, on joue. Donc n'importe qui pourrait jouer n'importe quoi au final. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche, il paraît. Cette comédie musicale, elle parle encore de tonnes d'autres sujets intéressants, tels que les blessures, la peur que tout s'arrête ou le sentiment de régression, des expériences qui résonnent avec beaucoup d'artistes, quel que soit le milieu. Après avoir écouté tout ce beau monde parler, appris à les connaître, les quelques heureux élus à avoir réussi la divine et sainte audition se retrouvent sur scène dans le même costume doré et il devient dur de les distinguer les uns des autres. Ils retombent dans l'anonymat de l'ensemble, sans identité. Quelle ironie. Parce que même quand on gagne, on perd souvent quelque chose en retour. Mais au moins, on est heureux. Parce qu'on fait le métier qu'on aime, en vrai. Je trouve que 50 ans plus tard, cette pièce a gardé tout son sens dans les thématiques qu'elle aborde. Le tableau d'un métier passion difficile, stressant, contraignant, mais pour lequel on donnerait beaucoup. Pour l'amour de la scène, pour l'amour de la culture. Si je vous dis ça, c'est que notre métier en France est en danger. Je pense que je ne vous apprends rien, si vous avez écouté mes collègues juste avant, si je vous parle de la montée de l'extrême droite. Alors laissez-moi simplement citer Marion Maréchal qui nous a dit « Je suis pour la suppression des régimes spéciaux, notamment celui des intermittents du spectacle. » Pas pour être complotiste, mais il est vrai qu'en supprimant l'intermittence et donc la très très maigre stabilité des acteurs du spectacle vivant, en sacrifiant et en faisant couler la culture, il est beaucoup plus simple de contrôler ce qui vient jusqu'aux yeux et aux oreilles des spectateurs, parce que la culture, c'est vecteur d'idéologie. Alors, aujourd'hui, on se doit en tant que comédien de ne pas sacrifier sa morale. Mais comment? Comment est-ce qu'on mange et comment est-ce qu'on paye le loyer? Alors si l'intermittence n'existe plus, qu'est-ce qu'on devra vendre de nous pour espérer avoir le droit d'exister en tant qu'artiste? En tant que consommateur, on se doit d'être souverain. Souverain des causes qu'on soutient, des choses que l'on met en avant et des événements qu'on finance. Merci à tous ceux qui ont été, ne serait-ce voir qu'un spectacle l'année passée, tous ceux qui ont déjà fait un don à une association d'ordre culturel et toutes les petites compagnies qui payent leurs artistes. Merci à toutes celles qui parlent des violences subies dans ce métier, ceux qui écoutent, ceux qui condamnent. Merci à tous ceux qui se battent pour que les chanteurs puissent chanter demain, pour que les danseurs puissent danser demain et pour qu'on puisse faire voyager encore quelques spectateurs. Vous êtes sur Slime, l'émission qui parle de comédie musicale, écrite par des comédiennes et comédiens, des chanteuses, des danseuses, des auteurs qui tiennent à garder leur droit de faire ce qu'ils font.
Merci beaucoup, Élise. Félicitations. J'ai envie d'applaudir. J'applaudis.
Merci.
Bravo, Élise. Merci pour ce message, de ce rappel que en fait c'est important d'aller voir des spectacles et que la culture en fait c'est un peu c'est un rempart contre l'extrême droite, contre le fascisme finalement.
Il faut qu'on arrive à faire en sorte que ça reste comme ça.
Voilà. Et bah écoutez. Merci beaucoup à vous trois pour cette émission de Slime. Merci beaucoup à vous, chers auditeuristes, de l'avoir écouté. C'est la fin. Et je vous annonce que ça y est, vous êtes engagés, vous, auditeurs, auditeuristes. À quoi ? Bah, si vous ne le saviez pas, c'est que vous n'avez pas bien écouté l'émission. Heureusement qu'elle est disponible en replay sur radiocampusparis.org. Vous pouvez nous retrouver au stand de merch. On vous vendra une paire de chaussettes brandées slime à 36€ la pièce, qui craqueront au bout de 2-3 semaines. Mais bon, vous serez déjà parti du théâtre, c'est con. Merci beaucoup Ange.
Merci beaucoup Gauthier.
Merci beaucoup Élise.
Merci Gauthier.
Merci beaucoup Ilona. Merci à Delila, à la technique. Et nous, on se retrouvera le 27 mars pour un nouveau numéro de Slime. En attendant, chantez, dansez et surtout, votez. Salut !